Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dmoun.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Même si elles vivent dans une apparente harmonie dans la société, les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées à des difficultés, stigmatisation, discrimination, persécution, victimes de crimes rituels. L'acceptation des personnes atteintes d'albinisme reste encore difficile dans certaines contrées, toujours sous le poids des croyances ancestrales. Quelle est la situation des personnes vivant avec l'albinisme? Qu'en est-il de leur protection? Quel est le regard de la société sur ces personnes? Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités. Ils sont au nombre de quatre. Mamadou Diabaté, secrétaire permanent de SOS Albinos. Madame Maïga Aminata Traoré, présidente de l'AMPA, c'est l'association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme. Docteur Mamadou Sissoko, dermatologue à l'hôpital de dermatologie de Bamako. Et Seigne Sangaré, psychologue et conseiller d'hygiène de vie. Sekou Gadjigo va vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Merci d'être là, chers invités. Alors, tout d'abord, Diabaté Mamadou, vous êtes le secrétaire permanent du SOS Albinos. Est-ce qu'il est aujourd'hui facile de vivre dans la société malienne lorsqu'on est personne atteinte d'albinisme?
Oui. Bonsoir encore. Moi, c'est Diabaté Mamadou, le secrétaire permanent de SOS Albinos. D'abord, je présente mon association. D'abord, SOS Albinos, c'est une association pour la protection, pour la promotion et la protection et l'insertion sociale des enfants atteints d'albinisme en particulier et des personnes atteintes d'albinisme en général. Bon, au Mali, c'est vraiment actuellement, c'est pas facile de vivre. Les personnes atteintes d'albinisme, c'est pas facile de vivre parce que c'est nous, on vient de voir, d'attendre trois ou quatre assassinats actuellement, aussi au 2022 même. Il y a la première en 2022. Oui, c'était pas facile de vivre actuellement les personnes atteintes d'albinisme au Mali.
Donc, depuis le début de l'année à maintenant, il y a eu quatre assassinats contre les personnes atteintes d'albinisme.
Oui.
Alors, Madame Maïga, vous êtes de l'AMPA, l'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme. Quelle est la situation aujourd'hui des personnes atteintes d'albinisme?
Ok, merci pour la parole donnée. Je salue les téléspectateurs de Studio Tamani et les auditeurs. Donc, aujourd'hui, je dirais que la situation, elle est inquiétante parce que, comme mon frère l'a si bien dit, nous avons enregistré quatre cas d'assassinat. La première, c'était en septembre 2021. Le second, c'était en janvier. Le troisième, en février. Le dernier, en avril passé. Et tous ces cas ont été faits à l'endroit des enfants et dont l'âge varie de 2 ans à 15 ans. Donc, hormis cela, et dans la société, les discriminations perdurent. Et vous venez d'écouter le reportage que vous venez même de faire passer. La discrimination perdure parce que jusque-là, les personnes n'ont pas encore compris l'albinisme. Ils pensent, ils croient toujours aux mythes qui sont autour de l'albinisme, qui font croire à certains que avoir une personne atteinte d'albinisme porte chance, avoir une personne atteinte d'albinisme dans la famille porte malheur. Donc certains même pensent que voir une personne atteinte d'albinisme dans la rue peut porter préjudice à sa vie. Certains vont jusqu'à cracher sur une personne atteinte d'albinisme et par peur de ne pas mourir.
Certaines... Cela se passe aujourd'hui au Mali.
Oui, cela se passe aujourd'hui au Mali.
Vous avez recensé des cas de ce genre?
Moi-même, et ça ne vaut pas 2 mois, il y a surtout les enfants, parce qu'ils entendent les personnes et causer sur cela. Quand ils vous voient, ils crachent. Des fois, ils fuient même. Quand ils vous voient, ils crachent. Certains même crachent sur leurs mains et les mettent sur leur nombril. Voilà, donc ça se passe toujours au Mali. Et aussi les noms péjoratifs qu'ils utilisent pour appeler les personnes atteintes d'albinisme. Et certaines personnes nous appellent Gomélé. Gomélé qui est une injure totale et claire. Parce que certains pensent que et nous sommes différents des personnes rouquines. Le docteur est là. Mais je pense que l'albinisme, la définition de l'albinisme qui est la définition standard, qui nous dit que l'albinisme est une anomalie génétique caractérisée par le défaut ou le déficit de production de la mélanine. Quand on parle de déficit, c'est nous, les personnes qui n'avons pas de mélanine dans notre sang. Donc, nous sommes les personnes les plus visibles qui avons la peau blanche pâle, la vision, elle n'est pas nette. Mais ceux qui ont un défaut de production de mélanine et ils ont la peau est roux, les cheveux roux. Donc, ici au Mali, et ces personnes-là sont plus appelées Gomélé, alors que dans le pays où moi j'ai grandi, on nous appelait, même moi, on m'appelait Gomélé. Même j'ai été là-bas l'année passée, en mois de juin, j'ai failli me bagarrer avec un apprenti et chauffeur qui m'a appelé comme ça. Donc cette situation, elle perdure, la discrimination, elle est toujours là. Les cas de meurtre et d'assassinat, ils sont toujours présents au Mali.
Alors, docteur, je me perds dans mes papiers. Docteur Signé Sangari, vous êtes psychologue.
Attention, je ne suis pas encore docteur.
Signé Sangari, alors vous êtes psychologue. Aujourd'hui, comment vous comprenez que, aujourd'hui, au XXIe siècle, le regard de la société n'a toujours pas changé, en tout cas, peine à changer sur les personnes atteintes d'albinisme?
Bon, c'est un problème d'abord de croyance et de valeur associé à cela. Parce que quand nous prenons les gens, le fait que je vous lis également dans une société, et cette société a des croyances et des valeurs qui sont inculquées comme des valeurs intrinsèques également à l'individu. Donc en fonction de ça, il y a trois éléments importants qu'il faut retenir, qui sont d'abord la distorsion de l'information, il y a aussi la généralisation de l'information, et encore, il y a un dernier élément. Donc, à travers ces éléments déjà, il y a cette perception sociale à l'encontre également, ça arrive, de ces gens qui vivent également dans cette situation. Donc, par exemple, c'est quoi? À la mesure, comme elle a si bien dit, on dit que déjà, c'est des gens qui portent malheur, c'est des gens qui sont maudits de temps en temps. Donc, jusqu'à ce qu'on a dit à certains, ça a du coût social, dans notre culture, que vous ne pouvez pas côtoyer un albinos. Donc le fait de le côtoyer, ça porte au malheur. C'est pourquoi, quand ils les voient, les enfants fuient, sinon même certains adultes, ils vont fuir. Donc ils disent qu'ils ne peuvent pas vraiment se marier, parce que déjà, dans la progéniture, il va y avoir encore d'autres naissances liées également à l'hérédité. Donc c'est la croyance inculquée et les valeurs transmises également de génération en génération font de telle sorte que jusqu'à présent, les gens vivent également de cette distorsion, de cette généralisation, à l'encontre également de ces gens-là. Donc c'est une question de perception. Je crois qu'il n'y a pas eu d'études scientifiques qui ont prouvé ça, même ceux qui sont dans les domaines des sciences humaines. Ils n'ont pas fait tellement de recherches par rapport à ça pour également amener les gens à se débarrasser de ces concepts sociologiques et culturels à l'encontre de ces gens-là pour leur donner également, c'est-à-dire, les droits de vivre ensemble. C'est ce qui pose problème.
Alors, docteur Madou Sissoko, vous êtes dermatologue à l'hôpital de dermatologie de Bamako. Vous recevez souvent les personnes atteintes d'albinisme. Est-ce qu'aujourd'hui, le constat que vient de faire d'établir Madame Maïga, est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que vous estimez que les personnes atteintes d'albinisme sont victimes de tout cela aujourd'hui?
Ok, merci de m'avoir donné la parole et bonjour. Nous remercions également vos auditeurs ainsi que tous les téléspectateurs. Et effectivement, je partage tout ce que Mme Maïga vient de dire. Et nous-mêmes, parfois, on communique avec les albinos ou bien les personnes atteintes d'albinisme. Et les persécutions, les stigmatisations sont l'air quotidien. Et quand c'est les personnes atteintes d'albinisme, quand ils viennent en consultation à l'hôpital, généralement, on leur conseille quels sont les moyens de protection et comment vivre. Parfois, nous jouons le rôle d'un psychologue, même si nous ne sommes pas. Mais je pense qu'il le faut. Et il y a mon collègue, oui, mon ami Mamadou, qui également avait parlé des cas d'assassinat. Là, ça nous a interpellés. Je pense que le professeur Faya même a un peu parlé par rapport à ça, à la télé. Donc là, je partage leur avis.
Alors, est-ce que ce n'est pas un problème de compréhension? Est-ce que les gens savent à quoi est dû cela, le fait d'être une personne atteinte d'albinisme? Est-ce que les gens ont compris la raison? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication?
Effectivement, il y a un problème de communication. Et d'où il est nécessaire d'informer les gens, d'éduquer, mais à travers non seulement les associations, mais également les médecins et les médias. La définition de l'albinisme, comme elle a si bien dit, en fait, c'est juste une maladie, une anomalie génétique, en fait, due à un défaut de production de la mélanine. La mélanine, c'est ce que nous voyons ici, qui nous donne la couleur de la peau et qui nous permet également de protéger notre peau contre le soleil. C'est juste ce défaut que les personnes atteintes d'albinisme ont. À part ça, ce sont des personnes entières. Donc, c'est ce que nous devons comprendre.
D'accord. Diabaté Mamadou, secrétaire permanent du SOS Albinos, quelles sont les difficultés aujourd'hui auxquelles vous êtes confrontés en dehors de tout ce que vient de dire Mme Maïga?
Bon, d'abord, je m'excuse d'avoir le psychologue là pour son terme albinos. Ça veut dire qu'il parle au nom de dire l'albinos, ça veut dire que c'est celui qui a des palis, tu dis comme un palidien ou diabétique, diabétien. On dit personne atteinte d'albinisme, mais pas des albinos. Oui. Bon, quand même, nous, actuellement, on a beaucoup de difficultés au Mali. Parce que d'abord, tu sais, la discrimination même est la première difficulté. Même dans la famille, les rejets de la famille, tu sais, on vécu toutes ces difficultés dans la famille.
Donc il y a des personnes vivant avec l'albinisme aujourd'hui qui sont rejetées par leur famille.
Bien sûr. Même j'étais orphanat. J'ai vu un cas là-bas, tu sais, leur papa a refusé de l'accepter. La maman a refusé de l'accepter. Tu sais, c'est sa grand-mère qui a mis au nom des familles à ces gars. Actuellement, il a plus de 30 ans. Il vécu sous la protection de sa grand-mère.
D'accord.
Bon, j'ai vu d'autres cas aussi à Fana même. Tu sais, si l'enfant est né atteint d'albinisme, tu sais, lui, elle, c'est derrière, ne peut pas avoir l'acte de naissance.
À Fana.
Oui, à Fana. J'ai vu ça aussi. Tout ça, ça c'est la difficulté.
D'accord.
Oui.
Madame Maïga, les difficultés concernant la vie dans la société, vous en avez parlé, vous en avez énuméré quelques-unes, mais aujourd'hui, sur le plan sanitaire, quelles sont les difficultés que rencontrent les personnes vivant avec l'albinisme?
D'accord. Donc, je vais toujours parler sous le contrôle du docteur. Déjà, la première difficulté de la personne atteinte d'albinisme, c'est dû au manque de la mélanine, là, qui fait que la peau de la personne atteinte d'albinisme est vulnérable aux rayons UV et les yeux aussi. Elle a une acuité visuelle qui est réduite aussi. Donc, la première difficulté, c'est le fait de s'exposer au soleil, parce que les personnes atteintes d'albinisme, avant qu'elles ne s'exposent au soleil, il faut qu'elles utilisent des crèmes solaires. Donc, ces crèmes solaires, elles ne sont pas des fois disponibles sur nos marchés et des fois pas accessibles à tous, parce que les personnes atteintes d'albinisme, elles sont partout au Mali. Et l'hôpital dermatologique fait de son mieux actuellement avec l'aide d'un partenaire pour produire des crèmes locales. Mais c'est une difficulté d'accès. On peut noter pour ceux qui sont très éloignés de la ville. Ensuite, comme mon frère l'a dit, certains enfants sont abandonnés depuis la naissance. Nous avons actuellement un bébé qui a été enregistré au niveau de l'association, qui a 6 mois, qui a été abandonné par son papa. Aussi, la famille, et les frères et sœurs, les parents proches, ils n'arrivent à comprendre pourquoi l'enfant il ne voit pas, parce qu'ils n'ont pas d'informations. Il y a certains enfants qui témoignent que leurs parents, des fois, se fâchent contre eux parce qu'ils disent et aux parents je ne vois pas, ou parce qu'ils viennent avec des cahiers où ils écrivent ce qu'ils pensent et le parent n'arrive pas à lire, il se met à les battre. Ils ne comprennent pas, ils ne croient pas des fois. Et tout ce que je suis en train de dire, c'est que ça nous a été révélé après une collecte de données que nous avons initiée en 2019 et qui a pris une année, où nous avons vraiment sillonné 5 grandes villes du Mali pour pouvoir nous enquérir de la situation réelle des personnes atteintes d'albinisme. Donc, ces difficultés qui sont familiales, vraiment, et ça fait que la personne atteinte d'albinisme perd confiance en elle. Elle a des difficultés à pouvoir s'intégrer dans la société parce qu'elle n'a pas l'amour de ses parents. Donc, ça, c'est côté famille. En classe, les personnes atteintes d'albinisme avec une déficience visuelle de 1 sur 10. Donc, une acuité visuelle de 1 sur 10 a du mal à voir le tableau noir. Elle doit faire des balles, un bal de va-et-vient afin de voir, venir écrire, regarder, venir écrire. Donc, à cause de cela, certains enfants battent leurs camarades, soit dans la classe, à l'absence du maître ou même dehors. Nous avons reçu un témoignage d'une petite fille de 5 ans qui était tout le temps battue par sa maîtresse. Et ça, c'était à Ségou, dans le cercle de sang qui est devenu aujourd'hui une région. Elle était tout le temps battue par sa maîtresse et sa maîtresse lui disait que la fille, elle ne l'aime pas. Elle le disait ouvertement, je ne t'aime pas, et d'intérêt. Nous avons ces vidéos et parce que son papa a accepter que nous filmons et la petite lorsqu'elle témoignait. Donc, en classe, c'est vraiment le calvaire parce que je pense que l'éducation, c'est un droit pour tout le monde. Mais les personnes atteintes d'albinisme, vraiment, on voit des fois ce droit-là est mis de côté par les enseignants parce que certains enseignants n'apportent pas assistance à ces enfants-là. Donc, l'autre difficulté encore, c'est à l'endroit des femmes. Il y a un mythe aussi qui dit et avoir des relations intimes avec une femme atteinte d'albinisme porte chance, apporte bonheur. Donc, certaines personnes qui croient en ça viennent vers ces femmes-là afin de pouvoir satisfaire cela pour prétendre à une quelconque chance. Donc, celles qui refusent sont des fois victimes ou survivantes de viol. Il faut le dire ainsi parce que c'est ce qui se passe, de viol, des fois d'harcèlement sexuel. L'harcèlement sexuel, elle est plus répandu et la communauté, les lieux de travail ou tout lieu où les personnes atteintes d'albinisme peuvent se retrouver.
Donc, d'accord. Nous allons aborder d'autres, peut-être qu'il y a d'autres difficultés sur le plan sanitaire. Nous allons donner la parole à Dr Sissoko. Mais avant, signé Sangaré en tant que psychologue, tout ce qu'elle vient d'énumérer comme difficultés sur le plan sanitaire, qu'est-ce que cela peut avoir sur la vie psychologique d'une personne atteinte d'albinisme?
Donc, c'est simple, parce que d'abord, il y a ce problème des carences affectives déjà. D'abord, ça ressort ça, puisque les deux parents qui l'ont mis au monde, si les parents ont des difficultés à l'accepter, donc ça veut dire que l'enfant ne peut pas bénéficier de l'amour parental. Donc encore, il y a le regard des autres membres de la famille. Le fait que les deux parents ont des difficultés à l'accepter, à le sourire également, à l'apprécier, les autres ne pourront pas en faire autant. Donc il y a d'abord cette première carence qui est là, qui est liée également à l'affection que tout parent devrait être en mesure de donner également à son enfant. Et ensuite, ça va au-delà de ça, puisqu'il y a ça, il y a à un moment donné, lorsque l'enfant va évoluer, il va commencer d'abord à remarquer toutes les perceptions de la société. Comment les gens nous perçoivent, comment on nous parle, comment on nous traite. Donc tout ce qui passe déjà, c'est enregistré. Et c'est en ce moment, ces enregistrements sont faits avec des émotions douloureuses. Donc il y a le rejet, il y a l'angoisse, il y a la culpabilité. Des fois, il y a faible estime en soi, manque de confiance. Donc déjà, ça va altérer toutes les fonctions, c'est-à-dire non seulement vitale, affective, et relationnelle et sociale. Même sur le plan intellectuel, vous allez voir que la productivité de l'enfant à ce moment-là va réduire. Parce qu'il ne se voyait pas accompagné, soutenu, apprécié positivement autant que les autres enfants. Donc c'est là que vous allez voir que ses capacités intellectuelles sont altérées. Sa capacité de communiquer aussi, ça risquera d'altérer parce que la communication, ça s'apprend avec les adultes. Donc sa capacité de réflexion et de productivité, tout ça là, ça va affecter. Donc quand c'est affecté, généralement, on a un individu, mais qui même des fois, en voyant les différentes situations, n'a pas envie de continuer à vivre. Il veut mettre fin également à sa vie. Ça arrive des fois, puisque voilà, tous les ingrédients sont là. Puisqu'à la maison, ça ne va pas, à l'école, ça ne va pas, dans la société, ça ne va pas. On se pose la question, pourquoi je suis venu? Donc, des fois, non, ça amène l'individu à accuser Dieu lui-même. Pourquoi moi, je suis né comme ça, les autres ne sont pas comme ça. Donc, c'est une difficulté énorme qui peut créer également et de faire développer d'autres pathologies, telles que la dépression en permanence, telles que ça dit l'anxiété. Des fois, ça va aller jusqu'à des pathologies qu'on appelle les névroses. Donc, voilà. Donc, ça dit que la personne a des problèmes à s'opter, ça dit que sa situation, ce qu'elle est. Et il y a des questions qui se passent là. Pourquoi moi je suis comme ça, les autres ne sont pas comme ça? Qu'est-ce que je fais? Donc quand ça arrive, il n'y a pas de réponse. Et le fait qu'il n'y a pas de réponse, donc l'enfant a des difficultés à se divertir, à se récréer, à aller avec les mêmes autres talents. Et je suis très content parce qu'à travers également cette association, les deux sont là. Il faut travailler un peu avec des professionnels pour développer la confiance en soi, l'estime en soi de ces éléments, pour que tous ceux qui sont également leur potentialité, leur capacité, leur vraie valeur, ils puissent vraiment les manifester, les exprimer dans l'art, le savoir et dans les activités socio-professionnelles.
D'accord. Docteur Marou Sissoko, vous qui recevez très souvent les personnes atteintes d'albinisme, quelles sont les pathologies dont souffrent ces personnes? On sait que très souvent, ils ont elles ont des problèmes de peau ou à l'hôpital de dermatologie. Quelles sont les pathologies qu'elles développent?
Ok, merci pour la question. Et surtout, comme vous venez de dire, c'est surtout les problèmes cutanés. Et parmi ces problèmes cutanés, nous énumérons et surtout les éphélides. Les éphélides, ce sont des petites taches que vous voyez sur la peau et qui peuvent être nombreuses.
Qui sont provoquées par quoi?
C'est secondaire surtout à l'exposition au soleil. Et généralement, ça apparaît sur les zones découvertes, et comme le visage, les décolletés, mais également les membres. Bon, on a également les kératoses actiniques, et c'est ça, ceux qui sont un peu vraiment méchants, en un mot, parce que ce sont ces kératoses actiniques qui peuvent évoluer pour donner des cancers cutanés. Et les cancers cutanés les plus fréquents, c'est surtout les cancers épidermoïdes et basaux. Bon, généralement, ce sont ces pathologies-là que nous voyons, mais également, les personnes vivant avec l'albinisme sont confrontées également à une sécheresse cutanée. Et c'est pour cette raison, chaque fois, nous conseillons d'appliquer les émollients, comme la vaseline à l'urée, mais également, parfois, des spécialités comme l'exéril, par exemple. Voilà.
Mais est-ce que la prise en charge de ces pathologies-là est difficile? Les produits dont ils ont besoin sont chers?
Effectivement, c'est cher. Parce que qui dit cancer dit aussi que c'est un problème. Parce que non seulement ça doit être opéré, et parfois il y a des difficultés aux malades d'avoir honoré les bilans, les radios, ainsi de suite. Mais comme on a les associations, et généralement, c'est les associations qui viennent en aide. Mais également, quand on dit les crèmes solaires, et Ramaïga vient de dire, les crèmes solaires sont parfois difficiles à avoir. Et tout récemment, à travers la fondation Pierre Fabre, bon, là, on faisait des crèmes solaires chez nous. Mais il est difficile de donner à tout le monde. Et non seulement dû aux éloignements, parce que certains sont jusqu'à Gao, Mopti, ainsi de suite, parfois c'est pas facile. Voilà, ce sont ces difficultés que nous rencontrons. Et puis là, beaucoup de gens viennent également vraiment à certains états qui est cancéreux, là ça nous donne beaucoup de difficultés, assez de difficultés en réalité, à nous et à l'association.
D'accord. Mamadou Diabaté de SOS Albinos, est-ce qu'aujourd'hui les autorités, l'État vous soutiennent, l'État vous soutient dans cette prise en charge-là?
Bon, en fait, bon, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que l'État nous soutient, mais quand même, nous, on a besoin toujours, puisque l'État peut nous soutenir, c'est à nos besoins. Comme il vient, parce que ça c'est le cas général. Il vient ratifier notre décret d'application, mais c'est toutes les personnes handicapées. Bon, quand même, on a un peu là-dedans, mais ce n'est pas appliqué d'abord. Oui, ce n'est pas appliqué d'abord.
Mais est-ce qu'au niveau du centre dermatologique, par exemple, est-ce qu'on vous fait des facilités là-bas pour que la prise en charge puisse être faite?
Oui. Il nous fait la facilité là-bas, parce que il y a une autre association, SIAM, Solidarité et l'insertion des albinos. Bon, parfois, lui, elle nous aidait à faire la prise en charge des personnes atteintes d'albinisme cancérisé. Oui.
Ça, c'est au niveau du centre, du centre dermatologique.
Oui.
Alors, Madame Maïga, en plus du soutien de l'État, d'abord, est-ce que vous estimez que ce soutien aujourd'hui est important, suffit pour prendre en charge les personnes atteintes d'albinisme?
D'abord, on ne peut pas dire que l'État ne nous soutient pas d'emblée, parce que l'hôpital dermatologique, c'était le centre pour les... D'appui sénanum. Donc l'État, à travers les dermatologues, l'association, nos plaidoyers, ils ont fait en sorte que ce centre soit l'hôpital dermatologique. Et au sein de cet hôpital dermatologique, il y a une structure qui est dédiée à la prise en charge des personnes atteintes d'albinisme. C'est ça, non, docteur?
Oui.
Donc ça, c'est un grand soutien, c'est un grand pas. Mais déjà, comme on l'avait aussi dit, la production des crèmes solaires, là, elle n'est pas suffisante. Donc on souhaiterait que l'État s'y investisse pour qu'elle soit de grande envergure, pour que tout le monde puisse la voir.
Ces crèmes sont produites ici?
Elles sont produites ici, oui, au sein même de l'hôpital dermatologique. Mais c'est à travers un partenaire, comme il l'a dit, la Fondation Pierre Fabre et une autre association. Voilà, donc si l'État s'y investit, on pourrait industrialiser cela, parce que c'est local, il y a certaines personnes qui se plaignent et parce que les peaux ne sont pas les mêmes, il y a plusieurs types d'albinisme. Vous allez constater que moi et mon frère Diabaté, on n'a pas la même couleur de peau. Voilà, il y a plusieurs types d'albinisme, il y a certains c'est compatible avec leur peau, certains non. Donc si l'État s'investit, ça pourrait non seulement s'améliorer dans les jours à venir, mais aussi on pourrait en produire plus. L'État aussi a fait un grand pas en adoptant la loi 027 qui porte sur la protection des personnes en situation de handicap.
D'accord.
En 2019.
On va en parler tout de suite.
D'accord.
Mais avant, je voudrais vous faire écouter ce reportage de Imirana Kilou Maïga, des organisations de défense des droits des albinos, qui dénoncent les difficultés d'insertion socio-professionnelle auxquelles les personnes atteintes d'albinisme font face. Selon elles, le phénomène reste une réalité dans le pays. Reportage de Imirana Kilou Maïga.
Ce n'est pas évident pour une personne atteinte d'albinisme d'être insérée dans la vie professionnelle, même sur le plan scolaire. Cette déclaration est d'Aboubakar El Hassan Doumbia, président de l'Association pour la promotion de l'insertion sociale des enfants atteints d'albinisme, SOS Albinos. Il a en outre dénoncé 4 cas d'assassinat contre les albinos entre janvier 2022 à ce jour. Aboubakar El Hassan Doumbia.
Il est difficile pour une personne atteints d'albinisme d'être insérés chez les militaires parce qu'on va dire que la visite physique, ils ne vont pas pouvoir le faire parce qu'il y a une déficience visuelle qui est là. Donc ce qui fait que c'est vraiment à cause de la faiblesse de l'acuité visuelle et à cause vraiment de la fragilité de la peau qui fait que l'insertion professionnelle n'est pas toujours évidente.
Une quinzaine de femmes atteintes d'albinisme ont bénéficié ce lundi d'une enveloppe d'un fonds de commerce. Selon la présidente de l'association Espoir pour les enfants albinos et autres enfants en situation difficile, Fatou Touré, il s'agit de faciliter l'insertion socio-économique de ces femmes.
Celles qui sont à la maison et qui n'ont pas d'autres activités, ce matin, on les a donné des fonds de commerce pour qu'elles puissent débuter un petit commerce avec ce qu'on leur a donné. Cela fait bientôt 9 ans. Chaque mois, on donne des kits de protection composés de crème solaire, des chapeaux, des lunettes aux enfants atteints d'albinisme.
Ces organisations de défense des droits des albinos ont invité les populations et les autorités au respect des droits des personnes atteintes d'albinisme et à traduire devant la justice les auteurs des crimes contre les albinos.
Madame Maïga, est-il vrai que l'albinisme peut être souvent un obstacle à l'insertion professionnelle?
Oui. Et à cause de la déficience visuelle, nous recevons toujours ces témoignages comme quoi on m'a refusé l'ordinateur. Avec mon diplôme de maîtrise, je dois être forcée à être caissier, à encaisser, à vendre et ne pas enregistrer comme une comptable. On reçoit tout le temps ces témoignages parce que les responsables des entreprises pensent que à cause de notre déficience visuelle, nous allons leur causer des problèmes au niveau des chiffres parce que la plupart, bon, ceux qui nous viennent sont des gestionnaires. Et l'insertion aussi, elle est difficile, surtout en milieu, dans le privé, parce que beaucoup d'entreprises recrutent des personnes. Les critères de recrutement, dans certains critères, on trouvera que l'apparence physique compte. Voilà, l'apparence physique compte. Donc, certains sont déjà disqualifiés. Il y en a une sœur qui est allée faire un dépôt au niveau d'une entreprise privée. Elle a fait son dépôt et quand elle voulait rentrer, elle s'est rappelée qu'elle avait oublié de numérer son numéro de téléphone sur l'enveloppe. Elle est revenue. Elle a demandé à la dame que si elle pouvait avoir son dossier pour pouvoir mettre son numéro sur l'enveloppe, malgré qu'il y a le numéro sur le CV. Et la dame a pris le dossier dans la poubelle pour lui remettre. Vous voyez.
Le dossier était déjà dans la poubelle.
Donc, elle a pris son dossier et elle est rentrée. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes atteintes d'albinisme qui ont des taches sur la peau, des taches noires sur la peau. Donc, certains pensent que ça, c'est pas joli, donc c'est pas approprié pour leur entreprise. Voilà, donc... L'insertion professionnelle, je pense que le gouvernement, et je voulais en venir avec la loi, après l'adoption de la loi 027 et son décret en septembre 2021, il y a eu l'intégration de 41 personnes à la fonction publique. Donc, en 2019, l'albinisme a été reconnu comme un handicap à cause de la myopie incurable dont les personnes atteintes d'albinisme souffrent. Donc, ils ont été reconnus comme un handicap. Donc, à travers ce recrutement spécial, 5 personnes atteintes d'albinisme aussi ont pu être recrutées. Voilà. Donc, nous remercions l'État pour cela.
D'accord. Seigneur Sangaré, on a vu, vous le disiez tantôt, que c'est toujours les croyances anciennes qui sont toujours, qui pèsent toujours sur notre société. Aujourd'hui, on voit que c'est vrai qu'on parle de loi qui a été prise pour la protection des personnes atteintes d'albinisme, mais on constate toujours des cas de violence, d'agression contre les personnes atteintes d'albinisme. Comment expliquer cela aujourd'hui?
Bon, vous savez que notre société est remplie de gens qui sont mentalement déséquilibrés, des gens aussi qui sont dans leur tête malades. On appelle généralement les psychotiques. Voilà. Donc, si par exemple, je donne le cas de schizophrénie déjà, des gens qui sont dans cette pathologie, qui ne reconnaît pas déjà leur identité malade, qui pense que les autres sont malades. Donc les causeries et les croyances qu'ils vont formuler autour de ces gens, voilà, peuvent les amener à les agresser facilement, sinon cracher sur voilà, quelqu'un. Donc le fait de faire mal à des gens dans cette position, donc ça leur plaît, naturellement. Il y a aussi dans notre culture ce qu'on appelle les somalas. Donc, on vous regarde, voilà, les féticheurs, donc ils ont tendance à sacrifier, ils ont besoin également des centres de séance, voilà, pour adorer également, c'est-à-dire leur dieu et autres là. Donc, voilà, donc, ça dit que c'est trop compliqué, la compréhension, et donc, même de ces gens, s'ils n'ont pas les moyens de les accéder, ils seront obligés, les jeunes délinquants ou les jeunes drogués, de leur payer cher pour qu'ils puissent vraiment amener ces gens-là vers eux. Donc tout ça, c'est les sources également et les motivations qui les amènent également à agresser les personnes atteintes également d'albinisme.
D'accord. Docteur Marou Sissoko, est-ce que les personnes atteintes d'albinisme bénéficient de la protection qu'il faut aujourd'hui? Quand on regarde tout ce qui se passe, ces nombreux assassinats.
Bon, moi je dirais que non, parce que pas suffisamment. Voilà, parce que jusqu'à présent, l'assassinat ça continue, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore bien protégés. Et on aimerait quand même que l'État fasse quelque chose par rapport à ça. Et sinon, quant à notre niveau, bon, on leur conseille surtout une protection solaire, en portant des habits à manches longues, les pantalons, et si possible, les chapeaux à bord large, les lunettes solaires, voilà.
D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Diawaté Momodou, on a vu des cas d'assassinat dont les enquêtes n'ont toujours pas, en tout cas, on ne connaît toujours pas les résultats. Vous avez parlé de 4 assassinats du début de l'année à maintenant. Est-ce que vous suivez ces dossiers-là souvent? Est-ce que vous allez au niveau de la justice pour mener des enquêtes sérieuses sur ces cas?
Bon. En vrai dire, en réalité, bon, on a eu les cas dont on avait vu, comme d'abord à Mamaribou, là, bon, on n'a pas eu le site des cas. Mais les suspects étaient arrêtés, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de suite. Bon, et les autres cas aussi. Bon, comme notre présidente est là, bon, elle peut un peu parler sur les autres cas aussi. Oui.
D'accord, Madame Maïga. Les cas d'assassinat, les cas de violence à l'égard des personnes atteintes d'albinisme, comment vous suivez ces dossiers? Est-ce que vous avez le soutien des avocats, des associations de défense des droits de l'homme? Comment vous faites? Pourquoi ces dossiers n'a toujours pas de suite?
Ok, nous suivons les dossiers. Déjà, notre organisation fait partie du cadre de concertation de la Commission nationale des droits de l'homme. Donc, c'est l'un de nos partenaires qui nous aide actuellement sur ces dossiers-là. Parce que vous savez, quand il y a ces genres de cas dans un pays, il y aura toujours des personnes qui viendront à côté pour pouvoir faire déjouer les choses afin que les suspects soient libérés. Donc, quand ça arrive au niveau de la justice, l'association ayant déjà porté plainte se rallie derrière ces organisations-là afin qu'ils puissent continuer. Mais toujours, nous sommes avec eux, nous travaillons avec eux. Donc, nous recevons les informations et lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, donc on intervient.
Mais
donc,
pourquoi ces enquêtes n'aboutissent jamais? Est-ce qu'il y aurait des gens puissants derrière ceux qui commettent ces crimes-là?
C'est des fois, nous-mêmes, nous posons cette question-là. Par exemple, le cas de Ramata Diarra à Fana, on a toujours suivi. Nous avons levé dépêché des missions, nous avons été même accompagnés spécialement par la CNDH, aller voir l'état de la situation. Et finalement, nous avons eu même un avocat de la part de l'État pour cette situation. Mais après, il y a eu un jugement et après le jugement, nous n'avons plus eu d'informations sur le verdict. Actuellement, pour les 4 derniers cas...
Et vous avez laissé tomber?
Nous n'avons pas laissé tomber parce que nous restons... Notre stratégie, c'est de rester en étroite collaboration avec la famille, rester en contact permanent avec la famille pour être toujours informé des situations nouvelles. Et quand il y a une nouvelle situation, la famille nous informe. Donc c'est comme ça que nous agissons. Parce qu'il faut reconnaître aussi que nous sommes des organisations à but non lucratif. Nous sommes bénévoles. Nous n'avons pas les moyens nécessaires de pouvoir suivre et faire suivre les actions. Donc c'est un peu difficile. Des fois, et certaines organisations se rallient et telles à cause de la lenteur, ils nous laissent en cours de route. Mais maintenant, nous sommes apesantis vraiment sur le partenariat qui est entre nous et la CNDH, qui est une institution indépendante, donc pour qu'ils puissent nous aider afin que nous puissions vraiment faire le point sur ces derniers cas. Mais déjà, parmi ces 4 cas d'assassinat, il y a 2 cas où les suspects ont avoué les faits. Donc déjà, quand les suspects avouent les faits, ça facilite le jugement. Donc, mais les 2 derniers, eux, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore avoué. Et c'est ce qui rend difficile la procédure.
Alors, Seigneur Sangaré, est-ce qu'on ne peut pas dire que la société même ne protège pas ces personnes atteintes d'albinisme quand on regarde tous ceux dont telles sont victimes, les assassinats qui sont récurrents pratiquement tous les ans, il y en a. Est-ce qu'aujourd'hui, la société, l'État même ne prennent pas un peu à la légère cette situation?
Oui, comme on l'a dit, puisque l'État même constitue chacun de nous, alors que la population n'a pas compris cette situation d'handicap. Donc, c'est-à-dire au moment que les gens comprennent que ce n'est pas une malédiction, que ce n'est pas encore d'autres troubles et d'autres problèmes, et que c'est des individus qui sont atteints également par cette insuffisance de mélanine. Donc, ça va faciliter l'acceptation. Donc, on va les accepter. Donc, tout le problème, c'est que la société n'arrive pas à les accepter d'abord. Donc, le fait qu'il n'y a pas d'acceptation, il y a ce qu'on appelle le rejet. Donc, quand on rejette quelqu'un, il est difficile en ce moment de le protéger et de le soutenir, sinon de lui venir en aide.
Mais dans les textes, dans la constitution malienne, dans les conventions que l'État a ratifiées, il est bien clair que ces personnes doivent être... C'est des personnes normales comme les autres qui doivent être protégées. Pourquoi on ne parvient pas à le faire?
Parce que ceux qui ont élaboré la constitution, c'est-à-dire de la République du Mali, là, généralement, ils ne comprennent même pas ce qu'ils ont écrit. C'est ça la réalité. C'est pourquoi tous nos textes là, on le viole chaque jour.
D'accord. Docteur Madou Sissoko, aujourd'hui, comment changer le regard de la société vis-à-vis de ces personnes atteintes d'albinisme?
Ok. Il faut surtout la sensibilisation, surtout sensibiliser la population par rapport à ces personnes atteintes de l'albinisme. Il faut que la société comprennent que c'est des personnes entières qui ont du sang, voilà. Et c'est uniquement qu'il y a un défaut de mélanine. Il faut que les gens comprennent ça. En même temps, il faut qu'on aille à faire une éducation, informer à travers les médias, mais également la société et l'autre là. Je veux dire que l'association, voilà, il faut que l'association s'implique et que l'État aussi aide les associations à aller vers la population afin qu'ils puissent comprendre les personnes atteintes d'albinisme.
D'accord. Voilà. D'accord. Nous, plutôt Diabaté, Mamadou, vous allez nous permettre, pour qu'on termine, parce qu'il est déjà 19h, termine avec Madame Maïga. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le regard de la société sur les albinos?
Pour changer le regard,
d'albinisme plutôt.
Pour changer le regard de la population envers l'albinisme, c'est de multiplier ces genres d'espace afin que nous puissions avoir, nos voix puissent être amplifiées. C'est de permettre aux personnes atteintes d'albinisme de participer à plusieurs choses telles que les actions communautaires au niveau de la commune. Il faut que les parents acceptent leurs enfants, qu'ils leur montrent l'amour, qu'ils les aident, qu'ils les assistent pour qu'ils puissent défier toutes les difficultés. Il faut que le gouvernement puisse prendre une politique vraiment nationale qui puisse faire et permettre une protection spécifique des personnes atteintes d'albinisme.
D'accord, une politique nationale de protection des personnes atteintes d'albinisme. C'est sur ce que prend fin le grand dialogue de ce soir, qui parlait aujourd'hui des personnes atteintes d'albinisme, quelle est leur situation au Mali. Nos invités étaient Mamadou Diabaté, secrétaire permanent de SOS Albinos, Madame Maïga Aminata Traoré, de l'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme, et Dr Madou Sissoko, dermatologue à l'hôpital de dermatologie, et Seigné Sangaré, psychologue et conseiller d'hygiène de vie. Ce débat a été présenté par Sikou Gadjigo, mis en onde par Nouhoum Djiré. Régie vidéo, il y avait Mamadi Keïta. Merci à toutes et à tous, et à demain pour un autre numéro.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halou Dimondi.
Chien Nibiri.
Sigi Kafoba.